16h46, chaque jour, le bullshitomètre, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue. Aujourd'hui, Gilles Petit nous rejoint et nous accompagne, journaliste expert des questions patrimoniales, des questions environnementales aussi. Bonjour Gilles.
Bonjour à vous.
Ravi de vous retrouver Gilles. Oui, Total Energy réfléchit à une cotation à Wall Street, faire de Wall Street sa place principale de cotation, et c'est une des conséquences de l'ESG, très strict l'ESG en Europe, en tout cas plus qu'aux États-Unis. Mais l'ESG européen est un modèle du genre. Et mieux encore, grâce au pacte vert, l'Europe est en train de devenir une véritable puissance écologique, et ça, on peut s'en réjouir. Enfin, c'est ce que pensent certains. Mais vous n'êtes pas d'accord, vous vous dites bullshit. Vous foudroyez. L'idée selon laquelle l'Europe, c'est en train de devenir une véritable puissance écologique malgré le pacte vert.
Absolument, et les certains en question sont des hommes politiques qui sont en responsabilité, comme on dit aujourd'hui, et à des très hautes responsabilités, figurez-vous. Et à l'approche des élections européennes, donc du 9 juin, j'avoue que cette vérité, ou en tout cas cette fable qu'on nous raconte, c'est une histoire, une fable après tout, perd de sa substance au fur et à mesure qu'on se rapproche des élections, tout simplement.
Le 9 juin prochain, ce sont les intentions de vote qui vous inquiètent, en l'occurrence ?
Alors, on va pas se mentir, la transition énergétique ou écologique, telle qu'on l'entend, elle a quand même un petit peu de plomb dans l'aile, et effectivement, les intentions de vote, mais quand je parle des intentions de vote, on parle souvent, parce qu'on est franco-français, des intentions de vote en France, l'extrême droite serait en tête, mais en fait, jusqu'à présent, et jusqu'à encore quelques mois, jusqu'à encore 6 mois, pour être tout à fait juste, on avait à composer en Europe avec ce qu'on appelle aussi le bloc conservateur, pour pas dire extrême droite.
Le PPE.
Voilà, on avait à faire affaire avec juste avec les Hongrois. Et puis depuis 6 mois, on a quand même vu des intentions de vote et puis aussi des partis qui ont émergé dans d'autres pays en Europe. On parle pas que de la Hongrie, on parle pas que de la France, on parle de l'Italie évidemment. Qu'on voit souvent sur le devant de la scène, on parle de la Finlande aussi. Ça, on en parle très peu chez nous. On parle des Pays-Bas, évidemment, de la Slovaquie et de la Croatie. Donc autant de pays qui peuvent donner des voix à l'extrême droite et qui peuvent effectivement, si vous voulez, on n'arrête pas de parler de millefeuille réglementaire en Europe qui assommerait tous les citoyens européens. Les agriculteurs sont aussi en première ligne sur cette question-là. Si jamais ces partis-là avaient un poids important en Europe, ils pourraient effectivement remettre en cause cette transition énergétique, et en tout cas toutes les initiatives qui ont été prises.
Oui. C'est pour ça que vous dites c'est pas gagné.
C'est loin d'être gagné.
N'êtes-vous pas néanmoins un brin défaitiste, un brin de muguet, bref. Après tout, le pacte vert, c'est en particulier le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ce mécanisme, il est entré en vigueur. Ça y est, il est entré en application en 2023. Oui. C'est vertueux et ça y est, le train est lancé.
C'est merveilleux, merveilleux. On est dans cette fable, vous savez, ces histoires qu'on rencontre.
Il est entré en application.
Non, alors le pacte vert, qu'est-ce qui est intéressant dans le pacte vert? C'est ce mécanisme d'ajustement aux frontières. C'est une taxe carbone, tout simplement. Alors, là où je vous suis et là où je suis d'accord avec vous, c'est effectivement, pour les gens qui nous écoutent, c'est de mettre aux frontières de l'Union européenne une taxe qui s'imposera sur certains types de production et qui permettra effectivement de prendre en compte le fait qu'on est plus vertueux sur la production neutre en carbone, en tout cas légèrement moins importante en carbone qu'à l'extérieur. Donc, sont visés les Chinois. Mais le problème de ce mécanisme d'ajustement, de taxe carbone aux frontières, c'est qu'il n'en est que à son stade d'expérimentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, clairement, il est rentré en application en 2023, aujourd'hui, on ne fait que simplement déclarer. La taxe n'est pas prélevée. Donc, en fait, c'est juste une expérimentation. Donc, cette taxe carbone sera mise en place en 2026. Rendez-vous compte, 2026, mais c'est dans 2 ans. Je vous rappelle que les premiers objectifs européens, c'est 2030.
Nous comprenons votre point de vue. Mais reconnaissez quand même qu'au-delà des seuls résultats des élections européennes, force est de constater que les entreprises ont déjà pris le virage de la transition énergétique dans un horizon de temps pas si lointain. Gilles, on ne devrait voir rouler dans les métropoles que des véhicules électriques ou hybrides. C'est une vraie avancée.
Alors, je ne vais pas vous parler de la fable, mais je vais vous parler de l'image d'Épinal pour ces choses-là. On pourrait en faire une émission entière. Je le dis à chaque fois, mais faisons une émission entière sur le véhicule électrique. Le véhicule électrique, c'est impossible de dire aujourd'hui que c'est un véhicule qui est neutre en carbone. Premièrement, on peut le dire, les études les plus récentes montrent que la consommation en carbone d'un véhicule électrique en cycle d'utilisation. Je parle juste quand on utilise une voiture électrique, c'est 100 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc c'est quelque chose qui n'est pas neutre en carbone et c'est quelque chose qu'on nous vend comme étant neutre en carbone. En plus, le véhicule électrique, si on regarde un petit peu les chiffres, on voit bien qu'il a du plomb dans l'aile, puisque en France, au début de l'année, les ventes de véhicules diesel étaient supérieures aux ventes de véhicules électriques, ce qui est normal puisqu'en France, non seulement les véhicules électriques sont chers, mais en plus, on fonctionne beaucoup à la subvention. Donc le véhicule électrique, c'est pas du tout une bonne idée. Et on est d'accord, vous et moi, que le véhicule électrique, c'est pas quelque chose de très écologique. Donc avancer le véhicule électrique pour dire qu'on est en train d'avancer sur la transition écologique, c'est quand même un petit peu léger.
C'est la famille qui est réunie, Gilles Petit, vous n'allez pas vous en sortir si facilement. Jean-Louis J'espère. Vous interroge.
Oui, si vous n'êtes pas convaincu par les véhicules électriques, qu'est-ce qu'on peut dire des véhicules hybrides? Parce que c'est un moteur thermique avec une batterie, un moteur électrique. Ça permet quand même d'envisager une transition un petit peu plus sereine, non?
Voilà, alors deuxième image d'Épinal qui a été démontée très récemment par la très sérieuse Commission européenne. Attention, la Commission européenne, c'est pas des rigolos, hein. Ils sont pas là pour rigoler. Ils ont fait une étude là-dessus parce que ce qui se passe avec le véhicule hybride quand même, c'est que les constructeurs automobiles vous affichent des chiffres de consommation qui sont incroyables, quoi. On a envie d'y croire. Mais comment des véhicules qui sont construits, qui sont aussi imposants en aérodynamique qu'une pelleteuse et qui pèsent au minimum 1,6 tonne, peuvent aussi peu consommer? La Commission européenne a apporté une réponse. En fait, non. Les chiffres des constructeurs sont faux. Et la Commission européenne, ce qu'elle a dit, c'est quoi sur les véhicules hybrides? Elle a dit... Quand ce sont des particuliers qui utilisent un véhicule hybride, les chiffres de consommation des constructeurs sont inférieurs de x5. Ils sont divisés par 5, alors que la consommation réelle est multipliée par 5. Quand ce sont des entreprises qui utilisent les véhicules hybrides, la consommation est multipliée par 6 par rapport aux chiffres fournis par les constructeurs. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a parlé du Dieselgate, moi... Je vous mise une pièce là-dessus, un bitcoin, allez, soyons fous, on parlera bientôt de l'hybrid gate. Parce que, effectivement, les constructeurs sont en train de mentir sur ces chiffres-là, et ce qui est terrible pour eux, c'est que un jour ou l'autre, ça va se retrouver en bourse, parce que ça pèsera forcément. Il y aura des controverses qui vont être soulevées, ESG, évidemment, et s'il y a des actions en justice qui sont intentées, en plus, les constructeurs automobiles vont s'en prendre plein la figure. Alors, la transition écologique Europe et l'Europe qui serait un chantre de la transition écologique.
Non, on peut pas vous laisser.
On est mal parti.
On peut pas vous laisser comme ça, Gilles. C'est pas possible.
Après, il y a toujours eu un différentiel entre consommation théorique et consommation pratique. Mais il me semble que les hybrides consomment quand même moins que les pures essence ou pure moteur technique.
Non, mais Jean-Louis, il a décidé de tout voir en noir. Par l'économie verte, il voit les choses en noir. Gilles.
Oui.
Quand même, les accords de Paris, on est en train de s'aligner.
Bien sûr,
le Green Deal européen, 407 milliards d'euros investis pour justement respecter l'engagement des accords de Paris. Vous n'allez pas balayer ça comme ça d'un coup.
Ah, mais je le balaye pas d'un revers de main. Non, je balaye pas d'un revers de main, mais je tiens. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est quand même, je tiens à vous dire que c'est beaucoup. Mais comme le dit la chanson, la vieille chanson des années 80, c'est beaucoup, mais c'est bien peu parce que 407 milliards d'euros, il manque un peu plus de 400 milliards. Parce que les chiffres estimés pour pouvoir justement financer cette transition énergétique en Europe, c'est environ 813 milliards en moyenne chaque année. Donc chaque année, jusqu'en 2030, 2030, même pas 2050, il nous manque chaque année 400 milliards pour financer cette transition énergétique. Ce qui veut dire quoi? Et c'est pour ça, j'en reviens à mon point de départ sur les élections européennes, c'est que les gens qui vont aller voter en se disant « Mince, l'Europe nous embête, on en a marre de cette surréglementation qui nous pourrit la vie. Oui. » À côté de ça, vous avez des États qui sont surendettés. La note de la France a été maintenue, mais c'est quand même compliqué, on va pas se mentir. Et à côté de ça, il y a un besoin d'investissement qui est énorme et considérable et qu'on parviendra certainement pas à combler dans les 6 prochaines années.
En tout cas, on pourra l'assumer qu'à l'échelle européenne, ce besoin de financement.
Oui, bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que la France va mal, l'Allemagne va pas super bien non plus. Oui. Je doute que ça soit la Grèce qui puisse financer autant la transition énergétique, sans être méchant avec nos amis grecs.
L'empreinte sur le marché, sans aucun souci.
Bien sûr. Mais je suis d'accord avec vous, les chiffres sont fantastiques, mais elle emprunte, mais c'est de l'argent qu'il faut rembourser derrière. C'est pour ça que je vous parle d'un mur de la dette. Il y a un mur de la dette en France. On a des besoins de financement au niveau européen. Et à côté de ça, on a des élections européennes qui arrivent qui, si jamais les gens décident de stopper l'élan actuel, fera que la transition énergétique, on sera en dehors des rails et de la trajectoire.
Si on revient sur le côté boursier de cette affaire aussi, ça veut dire quoi pour les constructeurs auto? C'est plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle? Parce que en fonction des élections, il y aura peut-être moins de réglementations à l'avenir ou des assouplissements. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle?
Les constructeurs pourraient en profiter.
Le problème, c'est que les deux forces, on va dire, sont à peu près de même taille. Donc tout va dépendre parce que la réglementation peut effectivement être allégée. Mais il peut y avoir des controverses. Et je vous rappelle qu'on est au niveau de l'Europe, c'est-à-dire des actions en justice intentées, par exemple, au niveau européen, seront valables en France. Et donc, si les constructeurs sont attaqués sur des controverses ESG, là, ça peut taper très, très fort. Et je vous rappelle que nos constructeurs, ils sont quand même pas en position de force.
Gilles, vous estimez que l'Europe ne va pas assez vite, qu'on n'est pas assez ferme sur les questions ESG ici en Europe? Enfin, quand même, on est tellement ferme qu'un groupe comme Total Energy envisage éventuellement de faire de Wall Street sa place de cotation principale, parce que les institutionnels européens, les banques, les assureurs n'achètent plus le titre Total Energy pour respecter justement les règles européennes. Bien alors sûr. Qu'aux États-Unis, tout le monde continue d'acheter les pétrolières. Vous êtes content? Vous voyez le résultat?
Mais moi, j'ai jamais voulu que Total déménage, mais quand même, si vous avez écouté la commission d'enquête sénatoriale à laquelle Total a témoigné, Total a quand même dit tout simplement, et ça, l'Europe et l'État français peut s'en inspirer, parce que c'est l'État français en l'occurrence qui est en cause là. Total a dit, nous, on finance la production de panneaux solaires aux États-Unis parce que on a un avantage fiscal. Donc, dont acte à l'État français ou à l'Europe de dire « Ok, on prévoit un avantage fiscal et on permet à des entreprises comme Total de rester cotées en France et donc en Europe parce qu'on a envie de favoriser une transition énergétique pour des acteurs comme ça. » Si Total s'en va, c'est pas simplement parce que personne n'achète des titres pétroliers. Vous le dites vous-même.
Les Américains en achètent.
Les mines marchent très fort. Donc si les mines marchent très fort, il n'y a pas de raison que le pétrole ne marche pas. Il faut pas se voiler la face. Je veux dire, c'est pas la production aujourd'hui en électricité et en éolien qui va permettre d'assurer cette transition énergétique. Donc, mon message, c'est réfléchissez et faites le bon choix au moment de voter à ces élections européennes, parce que c'est super important pour cette transition énergétique.
Il est venu partager sa mauvaise humeur, Gilles Petit, régulièrement à nos côtés. Merci Gilles.
Avec plaisir.
Spécialiste, expert de ces questions patrimoniales, toujours un plaisir partagé.